place. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es généreux envers nous, si généreux, tu es si bon, tu cherches à nous sauver et puis à nous transformer, à nous conduire. Et c'est ce que tu veux faire à nouveau aujourd'hui. Seigneur, sanctifie-nous, que nous ayons envie de te plaire, que nous puissions porter du fruit pour toi, que nous puissions prendre de bonnes décisions. Et nous voulons te prier que tu nous parles par ta parole ce matin, cette parole puissante, vivante, par laquelle ton esprit s'adresse à nous, et qu'elle ne nous laisse pas indifférents, mais que nous puissions être des personnes réceptives à ce que tu as à nous dire dans tout plein de domaines auxquels on va s'adresser ce matin. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je ne sais pas si vous êtes bricoleur, ceux qui le sont, vous savez que vous avez toujours des projets en tête. C'est pareil aussi pour ceux qui aiment le jardinage. Nous, on regarde votre maison et on dit, ça a l'air bien. Mais les bricoleurs sont en train de dire, mais on pourrait encore peindre le grenier, ou on pourrait changer les armoires de la cuisine. Le jardin semble très bien. Mais ceux qui aiment le jardinage sont en train de dire, on pourrait planter des tomates, ou on pourrait peut-être couper les arbustes. Il y a toujours un projet en tête. Et votre idée, si vous êtes bricoleur, c'est d'améliorer la situation présente. De ne pas juste accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles sont plus ou moins acceptables. Et notre Dieu est un peu comme ça. Pas qu'il est un bricoleur qui fait des choses de manière pas très professionnelle ou de manière amateur, mais que Dieu voit une situation telle qu'elle est aujourd'hui et il veut l'améliorer. Et je sais cela parce que nous sommes en train d'écouter ces dernières semaines le livre de Ruth, le petit livre de Ruth. Et Junior nous a fait entendre au chapitre 2 que quelqu'un s'occupait de Ruth. Et si le livre se terminait là, on aurait dit, c'est bien. Ruth était une femme d'un autre pays. Naomi, sa belle-mère, était veuve. Au chapitre 1, ils étaient un peu en difficulté. Et puis au chapitre 2, Dieu a pourvu pour elle à travers un homme qui s'appelait Boaz, qui avait un champ, qui était généreux, qui prenait soin d'elle. Et on pourrait dire, c'était une belle petite histoire. Dieu a agi, Dieu a pris soin d'elle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu cherche à améliorer la situation, à ce qu'elle ne reste pas comme ça, mais que ça devienne encore meilleur que ce qu'on a vu jusque-là. Alors l'histoire du chapitre 3, je vous invite à trouver le livre de Ruth dans votre Bible, ce n'est pas facile à trouver, c'est un petit livre entre Juges et 1 Samuel dans l'Ancien Testament. Mais on va voir le chapitre 3 aujourd'hui, et c'est une histoire qui est un peu compliquée, pas qu'elle est difficile à comprendre, mais simplement parce qu'elle révèle toute la complexité de nos motivations humaines. Heureusement, Boaz et Ruth vont faire preuve de qualités, des qualités qui sont agréables à Dieu, mais nous serons interpellés par rapport à notre comportement et à nos projets. Une décision volontaire. Alors ce que je compte faire aujourd'hui, c'est regarder cette histoire, étape par étape, mais de la regarder sous deux angles. D'abord, l'aspect purement humain de deux personnes qui se rencontrent et qui veulent plaire au Seigneur. Il y a pas mal d'enseignements à retirer déjà de cela, par rapport à nos relations humaines et à vouloir plaire à Dieu dans tous les domaines. Mais après, nous allons regarder la même histoire sous l'aspect divin. Parce que ce récit, qui est une histoire vraie, nous révèle Dieu, que Dieu nous aime et comment il veut notre progrès. Il veut le meilleur pour nous. Alors on va regarder d'abord l'aspect humain avec le plan de Naomi et un temps pour agir. C'est comme ça que j'ai intitulé les premiers versets, un temps pour agir. Et je lis chapitre 3. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'aire. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, il va découvrir ses pieds et va te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Un temps pour agir. La récolte était finie, la récolte dont il était question au chapitre 2, et il n'y avait plus de travail donc pour Ruth. Certes, Boaz avait été généreux, il y avait 22 litres d'orge qu'il avait donné à Ruth pour Ruth et sa belle-mère, mais ce n'était pas une solution à long terme. Et donc, comme toute maman, Naomi est préoccupée par l'avenir de sa belle-fille. Elle est en train de réfléchir à son repos et à ce que Ruth peut recevoir et peut espérer. Boaz est de leur famille éloignée. Il pourrait donc être le futur mari de Ruth. Et dans cette société, à l'époque, guidée par la loi de Moïse, un membre de la famille devait s'occuper de la veuve d'un homme israélite. Boaz a donc une certaine responsabilité parce que l'ancien mari de Ruth, qui est maintenant décédé, était un homme israélite. Alors, Boaz travaille tard au bureau ce soir. Le verset 2 nous dit qu'il battait l'orge, c'est-à-dire qu'on avait l'orge de la récolte, et on le frappait, littéralement, pour que l'orge, la graine, se sépare de la plante. Alors la paille, évidemment, on la supprimait, et la graine, on la gardait. Et en 5 instructions, Naomi va préparer Ruth à mettre les chances de son côté. « Lave-toi, parfume-toi, dit-elle, habille-toi bien, va, mais sois discrète. » Alors, il y a 2 choses qui animent Naomi. D'abord, elle ne veut pas créer une scène, un événement public. Elle ne veut pas lancer un ultimatum devant tout le monde pour que Boaz soit exposé au déshonneur. Ce serait la pire des choses si Ruth devait aller trouver Boaz devant ses ouvriers et lui dire « Alors, on ne veut pas m'épouser ?» Donc, elle est en train de penser à cette discrétion qui est nécessaire. Mais il y a d'autres choses qui est en train d'animer Ruth, il me semble, et il y a quelque chose d'un peu louche dans la démarche de Naomi. Et cela ne devrait pas nous étonner. Peut-être que ça nous étonne, mais Naomi a déjà montré qu'elle a parfois fait des choix par facilité plutôt que par obéissance à Dieu. Et vous savez, les personnes de la Bible sont des personnes comme nous. Et donc c'est normal qu'elles font parfois de mauvais choix. Ce sont des personnes réelles, marquées par le péché. Et d'Abraham jusqu'à David, on voit que la Bible ne cache pas les défauts des personnages qui figurent dans la Bible, capables de manipulation, de mensonges et de dissimulation. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'au verset 4, elle dit... « Va découvrir ses pieds et te coucher. » Alors, je dois vous dire que les pieds, généralement dans la Bible, ça veut dire les pieds, d'accord? Mais parfois, c'est là où c'est délicat, parfois, les pieds, ça veut dire le sexe. Et donc, c'est un euphémisme qui est utilisé en hébreu. Alors, peut-être qu'elle est en train de suggérer quelque chose à Naomi qui serait une approche sexuelle vis-à-vis de Boaz. Pourquoi est-ce qu'elle penserait ça? Parce que par le passé, une femme avait manipulé un homme qui s'appelait Lot, de la famille d'Abraham, pour que dans la nuit, il s'enivre et il couche avec cette femme. Et elle a donné naissance à son fils qui s'appelait Moab. Il me semble que Naomi est en train d'essayer de refaire le coup de Moab en prenant cette fille de Moab, Ruth. Parce que si Ruth couche avec Boaz, il sera bien obligé de l'épouser, et vite, de peur qu'elle ne soit enceinte. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le plan de Naomi ne se passe pas comme prévu parce que Ruth dit « Je ferai tout ce que tu as dit », mais elle n'a pas compris l'euphémisme des pieds. Verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici, demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » C'est une requête pour la rédemption. Vous avez entendu ce mot qui revient souvent, c'est le mot rachat, qui parle de rédemption. Alors Boaz a terminé de travailler, il s'est couché, il est fatigué, il n'est pas ivre, il est joyeux, il a mangé, il a bu, et son travail est fait. Alors Ruth va se mettre littéralement aux pieds de Boaz. Et alors il va avoir les pieds froids parce que voilà, elle a enlevé ce qui couvrait ses pieds. Et puis il s'est réveillé en sursaut. Qui es-tu ? Alors Ruth ne veut pas être une femme passagère de la nuit. Elle ne garde pas l'anonymat. Elle dit « Ah, je suis Ruth, ta servante. » Et puis elle dira cette phrase au verset 9 « Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu es un rédempteur. » Il est un rédempteur. Il a la capacité de la faire sortir de son état de servitude, parce que pour le moment, elle est comme une servante, simplement en train de glaner dans les champs. Il peut lui apporter la liberté, un nouveau statut. C'est ça, un rédempteur. Mais ce qu'elle cherche n'est pas la liberté seule. Ce qu'elle cherche, c'est la protection de l'amour de Boaz. Les hommes, à l'époque, portaient des manteaux, un peu comme celui-ci. Et cette partie, donc ça c'était les manteaux qu'ils mettaient au-dessus de leurs vêtements, et cette partie du manteau s'appelle une aile. Et dans une image magnifique, la Bible décrit le mariage comme un mari qui prend sa femme sous son aile, sous son manteau. Et donc c'est ce que Ruth est en train de demander à Boaz, qu'il la prenne sous son manteau pour l'épouser. Et la réponse de Boaz en dit long, il la bénit au nom du Seigneur. Naomi n'a pas encore parlé du Seigneur, vous avez remarqué cela. Naomi n'a pas mentionné le Seigneur dans ce chapitre. Mais Boaz, lui, le mentionne deux fois. Il est conscient de Dieu. Et il dit, « Sois bénie, ma fille », verset 10. Mais il est aussi conscient de la générosité, la gentillesse de Dieu. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. N'est-ce pas frappant ? Au chapitre 2, on aurait pensé que le bon, le gentil dans l'histoire, c'était Boaz, parce qu'il avait été gentil envers elle. Au chapitre 2, verset 10, c'est ce que Ruth dit. « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz avait été bon et gentil. Mais ici, c'est lui qui est en train de dire « C'est toi qui es gentil. Quelle faveur envers moi !» Chapitre 3, verset 10. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas recherché des hommes jeunes, qu'ils soient pauvres ou riches. Elle aurait pu chercher à épouser quelqu'un d'autre dans le village de Bethléem, mais elle ne s'intéressait pas aux jeunes pour leur aspect physique, ni aux riches pour leur fortune. Elle voulait simplement attendre la solution du Seigneur. Boaz réagit à la bonté par la bonté. Il ne cherche pas à profiter de Ruth dans cette situation un peu vulnérable. Il ne cherche pas à lui faire du chantage en disant ben, « c'est donnant, donnant, moi je ferai ça si toi tu fais ça ». Il la rassure par une phrase qu'elle a utilisée à Naomi « Je ferai tout ce que tu demandes ». Et il dit ceci « Tu es une femme de valeur », verset 11. Cette expression nous est familière. Alors dans notre Bible, regardez votre Bible, vous avez le livre de Ruth juste après le livre des juges, n'est-ce pas ? C'est parce que ça se passe à l'époque des juges, c'est le même moment que les juges. Mais dans la Bible en hébreu, Le livre de Ruth vient juste après le livre des Proverbes. Et le livre de Proverbes se termine par le chapitre 31. Et donc, vous avez lu le chapitre 31 de Proverbes, et puis juste après, vous avez Ruth. Et qu'est-ce qu'il y a en Proverbe 31? Vous l'avez déjà deviné. Il y a un portrait d'une femme de valeur. Impossible de ne pas voir cet écho, même si, bien sûr, Proverbe a été écrit plus tard. Ruth, ici, même si c'est une étrangère au départ, même s'il est complètement inconnu, est un exemple du type de femme que nous devons admirer. Parfois, une femme pense « Qu'est-ce que je dois faire pour être remarquée ? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me voie ?» pour commencer une relation romantique. Et en fait, je peux vous dire, ce n'est pas un problème chez les hommes, ils ont des yeux. Dieu nous a fait pour être attirés par ce que nous voyons. Nous avons une attirance pour ce qui est visuel. Tu ne dois pas attirer son attention, il t'a vu. Okay ? Mais nous devons comprendre qu'il y a autre chose, ce qui a vraiment de la valeur. Ce n'est pas la beauté superficielle, cosmétique, mais le cœur d'une femme qui aime et respecte le Seigneur. Vous devez apprendre cela si vous êtes une femme. Vous devez aussi l'apprendre si vous êtes un homme. Voilà ce qui a vraiment de la valeur. Et Boaz a complètement compris cela. Il a vu chez Ruth des qualités, de la gentillesse, du travail, de la bienveillance. Et il recherche une femme de qualité. Et il dit, tu es une femme de valeur. Alors Boaz, lui aussi, fait preuve de générosité, de bonté et de maîtrise de soi. Le voilà, seul, avec une femme, la nuit, et il ne brûle pas les étapes. Parce que Boaz sait que selon la loi de Dieu, il ne peut pas coucher avec quelqu'un en dehors du mariage. Même si c'est sa future femme, il veut respecter Dieu. Il y a aussi un petit détail intéressant au verset 12. Il dit, « Il est vrai que j'ai le droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. » En fait, il s'est déjà informé. Ça révèle qu'il y avait déjà pensé à cela en disant « Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui devrais l'épouser ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» On va lire la suite. 14 à 18. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit « Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. » Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Et elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle et puis et il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Un temps pour attendre, mais pas les mains vides. Elle n'a pas vraiment obtenu ce qu'elle espérait. Le dossier n'est pas fermé, mais il n'est pas réglé non plus. Donc c'est important pour Ruth qu'elle ne parte pas les mains vides. Elle part discrètement avant l'aube pour qu'on sache qu'il n'y a rien eu entre Boaz et elle. Il ne faudrait pas qu'il y ait une rumeur qui laisse entendre des choses fausses. Quand j'ai travaillé dans un village pendant 2 ans, j'étais stagiaire dans une église, tout le monde me connaissait. Village, tout le monde connaît tout le monde. J'allais à vélo et les gens me saluaient. Ah, bonjour Paul. J'allais dans les écoles et les enfants me connaissaient aussi comme celui qui travaillait pour l'église. Et mon pasteur à l'époque m'a dit, fais attention à ne pas héberger une femme chez toi, même si c'est ta sœur. Il savait que tout le monde sait de tout dans le village et que si le voisin voit une femme venir chez moi avec sa valise, peu importe qui c'est, une rumeur va commencer. Alors, Boaz n'a pas invité Ruth chez lui. Et il n'a pas profité d'elle. Et selon la loi de Dieu, en Deutéronome 22, Boaz risque une amende. Il risque même la mort s'il couche avec elle en dehors du mariage. Deutéronome 22, si vous voulez voir les termes et les conditions. Et donc, il ne veut pas que sa réputation soit affectée par une rumeur. Mais Boaz veut aussi l'aider. Et donc, il lui donne plus d'orge. Elle ne rentre pas les mains vides. Alors on a vu vraiment une progression de chapitre en chapitre. Au début, ils n'avaient rien, c'était la famine. Et puis au chapitre 2, Dieu avait pourvu pour eux, pour elles. Et puis au chapitre 3, elle est comblée, elle a encore plus de choses. Mais elle doit attendre. Tout n'est pas résolu tout de suite. Et n'est-ce pas que c'est frustrant, ces moments d'attente? Moi, je suis comme ça, j'ai du mal à attendre. Je veux que les choses se résolvent plus vite. Alors Naomi le rassure à la fin du chapitre. « Reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » C'est ce qu'il avait dit aussi, n'est-ce pas? Il avait dit « Demain, on verra cette chose, on verra, on va fixer cela. » Alors on attendra la semaine prochaine pour voir la résolution. Je ne vais pas donner de spoiler, on va attendre. Mais nous allons regarder maintenant cette histoire sous l'autre angle, juste brièvement, l'angle divin. Que nous dit l'histoire par rapport à nous et notre Dieu? Et ici, ça devient pertinent à tout le monde. Peut-être que tu es célibataire à vie, tu ne vas pas connaître cette même relation d'amour que Boaz et Ruth. Peut-être que c'était quelque chose que tu as vécu par le passé, et maintenant tu n'es plus marié, tu n'es plus dans cette relation. Mais nous avons tous une relation avec Dieu à cultiver. Et c'est une relation d'amour. Alors, en disant cela, je ne suis pas en train de lire la Bible comme une métaphore. Ruth et Boaz sont de vrais personnages qui ont vraiment vécu, c'est de l'histoire, c'est vrai. Mais chaque mariage, selon Éphésiens 5, est une image de Christ et de l'Église et de l'amour qui devrait exister entre Christ et son épouse. Parfois, le portrait de Christ est gâché dans un mariage. Parfois, il n'est pas très beau. Parfois, il est flou. Mais c'est néanmoins un portrait de Christ et l'Église. Alors, regardons à nouveau ces titres. Un temps pour agir. Vous voulez le repos. Vous voulez être heureux. Verset 1. Je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Eh bien, ce repos se trouve en Christ. C'est une tragédie humaine que nous recherchons le repos dans plein d'autres directions. Et pourtant, ce n'est pas ailleurs qu'en Christ que notre âme va trouver le repos. Tu peux regarder des vidéos amusantes, tu peux écouter de la musique classique, tu peux faire n'importe quoi pour essayer de trouver du repos, mais en fait, ça ne te satisfait pas profondément. On n'aura jamais joué assez de jeux vidéo. Mais le repos se trouve en Dieu. Et donc, si on allait vers lui, si on se tournait vers Dieu tout simplement dans la foi, peut-être que ceux qui n'ont pas fait le pas de la foi hésitent encore. Vous connaissez des chrétiens, les chrétiens semblent heureux, mais vous attendez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, pas que Dieu nous envoie un signe, ou je ne suis pas sûr s'il est là ou pas. Je voudrais vous dire, allez-y, bougez, vous. Imaginez que vous n'ayez plus rien à manger. C'est samedi soir, le frigo est vide, il n'y a rien sur ton compte. Et puis un ami t'appelle. Ah, je suis au magasin, là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as un choix. Soit tu fais semblant, non, ça va, non, j'ai besoin de rien. Ou alors tu dis, écoute, il me faudrait peut-être bien du pain. Quelle serait ton attitude? Eh bien, vis-à-vis de Dieu, nous devons commencer par là, un regard honnête sur notre situation. De dire, je ne m'en sors pas. Et je ne vais pas m'en sortir. J'ai besoin de toi. C'est pour ça que la crise dans la vie de quelqu'un est souvent ce qui commence leur foi, parce qu'on se rend compte de notre état réel devant Dieu. J'ai plus rien, alors j'ai besoin de Dieu. Un temps pour agir. Je demande au Seigneur de me secourir. Et puis une requête pour la rédemption, ce que nous avons fait, ce que nous devons faire, c'est venir à Dieu en lui demandant sa rédemption. Il y a un parallèle là. Entre la demande de Ruth qu'elle avait faite au verset 9, « Étends le pan de ton manteau sur ta servante », et le verset 12 du chapitre précédent. L'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'est la même expression. Sous ton aile, sous ton manteau. Et quel que soit notre état civil, nous avons ce mariage. Nous devons considérer que Dieu est notre époux si nous sommes en Christ, si nous faisons partie de l'Église. Nous sommes fiancés à Christ. Et je sais que c'est difficile à saisir, et c'est encore invisible, mais c'est néanmoins réel. La démarche proactive de Ruth nous aide aussi dans un autre sens. Savoir qu'il y a un Rédempteur, ce n'est pas tout. C'est bien de le savoir, mais il faut s'adresser à lui. Les chrétiens se sont parfois embourbés dans des discussions sur le rôle de Dieu dans le salut. Est-ce que c'est Dieu qui agit, c'est moi qui agis, etc. La Bible dit clairement que Dieu a choisi des gens, il a choisi des individus, que c'est lui qui les sauve. Alors c'est nécessaire de comprendre le rôle de Dieu. Pourtant, nous devons nous concentrer sur notre part. La Bible utilise des verbes actifs. Croyez, venez, faites appel au nom du Seigneur, demandez, cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Et ce n'est qu'après qu'on peut comprendre qu'en fait Dieu est à l'œuvre. Il nous a préparés, il nous a conduits. Mais il y a une requête pour la rédemption. Vous devez demander que ce Rédempteur vous prenne en charge, qu'il s'occupe de vous, qu'il vous libère. Vous avez fait cela ? Et puis, il y a un temps pour attendre, mais pas les mains vides. L'expérience présente de la vie chrétienne, on pourrait la décrire différemment, par différents mots. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ah oui, on croit en ce qu'on ne voit pas. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. On aime Dieu, il nous aime, on aime les autres. Mais c'est aussi une vie d'espérance. Parce qu'on attend quelque chose qu'on n'a pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'on a rien ? On n'a rien reçu de la part de Dieu, on attend tout ? Mais non, au contraire, nous avons toute bénédiction spirituelle en Christ, nous dit la Bible, Éphésiens 1, nous avons le pardon des péchés, nous avons le Saint-Esprit, nous appartenons à la famille de Dieu. Nous attendons pourtant, nous attendons d'être dans la présence glorieuse de Christ, d'être dans la maison du Père, d'avoir un corps nouveau. Nous attendons l'accomplissement de certains aspects du salut que Christ nous a acheté à la croix. Et l'attente peut être vraiment longue. Vous trouvez l'attente longue ? Oui, c'est un temps d'attente. Mais nos mains ne sont pas vides. Verset 17. Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides. » L'Église, nous n'avons pas les mains vides. Nous avons reçu tellement de la part de Dieu déjà. Mais verset 18 alors décrit la vie chrétienne. « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. » Et peut-être que c'est un mot pour quelqu'un aujourd'hui. Nous attendons la rédemption. La Bible dit « Nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En effet, c'est en l'espérance que nous avons été sauvés. » Reste tranquille jusqu'à la fin. L'avenir est incertain. Nous pourrions être choqués par les développements, la tournure des événements dans notre vie. Restons tranquilles, parce que nous connaissons déjà notre Rédempteur. Pendant que Dieu est en train d'agir, nous pouvons compter sur lui, jour après jour, année après année, jusqu'à la fin de l'affaire, quand Jésus revient pour nous racheter. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.